Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'était il y a à peine 20 ans, un scénario catastrophe maintes fois évoqué, un drame finalement évité. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, le bug de l'an 2000, chronique d'une débâcle annoncée.
Sur les aéroports du monde entier, aucun avion ne parvient à décoller. Dans les hôpitaux de Londres et de Tokyo, les moniteurs cardiaques et les scanners tombent en panne. À New York et à la Défense à Paris, les ascenseurs des gratte-ciel s'arrêtent entre deux étages. À Los Angeles et Rio, les distributeurs de billets ne reconnaissent plus les codes des cartes bancaires. Enfin, les cours de la bourse de la planète entière n'arrivent plus à s'apprécier. Alors, que s'est-il passé concrètement ? En fait, ce sont certains ordinateurs organisés en réseau qui viennent de fêter à leur façon la Saint-Sylvestre 1999. En effet, ces ordinateurs n'ont pas été programmés pour reconnaître correctement l'an 2000.
Il y avait de quoi être inquiet, avouez. En description d'un scénario, on disait « probable », l'émission envoyée spéciale 1998, deux ans avant la date fatidique. Or, rien pour nous rassurer à l'époque, semaine après semaine et de façon insistante à l'approche du 31 décembre 1999, les autorités nous mettaient en garde contre le risque d'une grande débâcle informatique. Panne généralisée, système bancaire à l'arrêt, avions cloués au sol, une peur planétaire qui reposait essentiellement sur deux chiffres. Mais hormis quelques incidents mineurs, la catastrophe tant redoutée n'a jamais eu lieu. L'humanité a basculé de millénaires et avec elle, la planète informatique.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moins de 4 heures maintenant avant l'heure fatidique, c'est-à-dire l'arrivée de l'an 2000. Il semble bien que les prophètes de malheur devront rester sur leur faim, puisque malheureusement pour certains, rien n'indique que la fin du monde aura lieu ce soir à minuit. Les avions, l'électricité, les ordinateurs, les mini-pods, tout semble fonctionner normalement. Alors à plus tard donc pour la célébration du nouveau millénaire.
C'est ça, oui. Bye, 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 le malade, bye, bye. C'est dans ma voix à minuit quand t'as plus d'eau, plus de char, plus de boutons de manchette, puis que t'as versé un avion sur la tête, tu sais, vous dites?
Ben voyons donc, mais il vient de le dire. Il arrivera absolument rien. Hein? Je lève de mes bas culottes à rénal. Mes dentiers à Thérèse.
Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais là, maman, ton testament, peut-être, hein?
Non, mais c'est toi qui t'as vraiment folle aussi avec ton Moses de Big Bug. Hein, la fournaise au charbon dans le salon, la fournaise à l'huile dans la cuisine, la combustion lampe dans les toilettes. Qu'est-ce que tu vas nous mettre dans la chambre, une TV au charbon?
Extrait d'un épisode de La Petite Vie, édition spéciale Le Bug de l'an 2000, 31 décembre 1999. Alors, illustration concrète de la place qu'occupait la question à la veille de l'an 2000. Pour en parler, mon invité, Nadia Serrayoko, elle est doctorante en communication, chargée de cours à l'UQAM. Elle l'a vécu, elle aussi, cette crainte du bug. Bonjour.
Bonjour, bonjour Maxime.
On l'a vécu tous les deux, bien sûr, ce fameux bug de l'an 2000. Oui. Quand vous pensez à vous y repenser 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, qu'est-ce qui vous revient en tête?
Bien, je vous avoue que je pense que c'était le ton très sensationnaliste qu'on avait à ce moment-là pour traiter de cette question-là. C'était tout d'abord une question informatique, mais il faut voir aussi qui se mêlait à ça, la peur de la fin d'un millénaire, puis tout ça, qui vraiment nous a rendus, je pense, un peu tous pratiquement conspirationnistes, si on le veut. Voyait les stands, par exemple, de journaux où, je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait une publication qui s'appelait le Weekly World News, qui était très sensationnelle, et ils ont consacré plusieurs numéros à toutes les catastrophes auxquelles on devait s'attendre. La Terre devait littéralement s'arrêter de tourner le 1er janvier. On allait manquer de nourriture. Vite, achetons du papier toilette, comme toujours. Fait qu'on voit vraiment qu'on avait mêlé, je dirais, plusieurs peurs. La peur informatique avec une peur de fin du monde. Et c'était vraiment une tempête parfaite, le côté média, je dirais, et même dans la population. Les gens allaient plus loin que ce qu'on devrait déjà sur les forums Internet et tout ça.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus, peut-être surtout davantage aux États-Unis, les survivalistes et autres. Alors, pour comprendre le bug de l'an 2000, il faut revenir aux origines de l'informatique, IBM, qui a longtemps régné sans partage. Pourquoi il faut remonter si loin?
Ben, c'est parce qu'écoutez, il y a comme une tradition un peu qui s'est imposée aux États-Unis, surtout. IBM est né, hein, d'ailleurs, en 1911. Fait que vous imaginez, ça fait quand même un bout. La compagnie est devenue vraiment IBM en 1924. Ils ont été là chaque fois qu'il y a eu une crise parce que le gouvernement a pris l'habitude de donner hein, tout ce qui était tâche informatique, donc gestion parfois même des opérations gouvernementales, par exemple, dans la crise, hein, quand on a créé le Social Security Act, c'est IBM qui a géré l'émission des chèques, etc., pour aider justement en 1935, finalement, la société américaine à se restructurer. Et ça a été vraiment une habitude de sous-traitance. Donc, à peu près tout ce qui touchait l'informatique, et c'est encore pas mal comme ça aux États-Unis, ce sont des compagnies hein, qui sont maintenant des multinationales, etc., qui le gèrent. Et c'est ce qu'on s'aperçoit qui a pu créer aussi une certaine distance hein, entre le gouvernement et les opérations informatiques. Qui sont finalement les opérations souvent de service même aux citoyens.
Oui, comme si le savoir-faire faisait pas partie de la machine gouvernementale. Hein. On s'en remet donc à ces firmes de consultants. Alors souvent, on rappelait hein, ces fameuses cartes perforées, les cartes IBM. Le bug trouverait ses origines là-dedans, c'est ça?
Oui, bien en fait, c'est qu'on a vu plusieurs générations d'ordinateurs se succéder et dans les années 60-70, on a créé des programmes qui, le pensait-on, hein, du côté des informaticiens, seraient utilisés peut-être pour une dizaine d'années, puis ensuite seraient mis à jour ou complètement remplacés par d'autres programmes. À ce moment-là, on travaillait encore avec des cartes perforées et donc c'était le système d'information là, qui était utilisé même dans la période d'avant-guerre. Puis ces cartes, finalement, représentaient un texte sur des lignes de 80 caractères. Puis IBM, à ce moment-là, est une des seules compagnies là, qui fabrique encore ça. Et on s'aperçoit que les gens, à ce moment-là, donc, devaient vraiment réduire, si on veut, hein, ce qu'ils allaient mettre comme information, hein, qu'ils allaient encoder, finalement, pour justement le consigner toutes les opérations gouvernementales, etc. Et ce qu'on a vu avec ça, c'est vraiment donc une économie qui faisait qu'on mettait, finalement, juste les deux derniers numéros, si on veut, de la date, de l'année, en se disant qu'on allait extrapoler hein, le 1-9. Mais ça avait été pensé, évidemment, à une époque où l'an 2000 était très loin.
Ben oui, ben
c'était, dans 40, 30 ans, voire. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on n'a pas finalement mis à jour ces systèmes-là. Fait qu'à ce moment-là, cette logique-là persistait, on dit, hein, jusque dans les années 80, parce que le coût de l'octet d'information était très cher. Et là, déjà dans les années 70-80, Maxime, on anticipait qu'on allait devoir changer ce système-là pour l'arrivée de l'an 2000. Mais comme c'est toujours le cas, hein, des fois, justement, ces questions-là informatiques sont mises de côté, sont laissées justement à des consultants, etc. Mm-hmm. Et c'est vraiment au début des années 90 qu'on s'est dit, ouais, ça pourrait peut-être créer un problème, cette histoire-là.
Ah oui. Donc, dès les années 70-80, on en était conscients. Il y a peut-être quelques personnes qui ont levé la main, mais on se disait, bon, l'an 2000, hein, c'est encore loin. Donc, à partir de quand les autorités prennent la chose vraiment au sérieux?
Bien, écoutez, quand on parle, justement, on a vu des lanceurs d'alerte, si on veut, à ce moment-là. On pense, par exemple, d'ailleurs, c'était un ancien d'IBM, hein, un certain Peter DeJager, qui est un ingénieur canadien qui avait commencé chez IBM en 80, qui, lui, amenait souvent le problème chez IBM auprès de la direction, puis on avait autre chose à faire. Et dans 95, il a quitté IBM pour fonder sa propre entreprise, et lui, vraiment, il s'est complètement, hein, vraiment orienté vers régler le bug de l'an 2000. Et on sait que le gouvernement de Clinton a été avisé du problème potentiel en 95, mais ils ont commencé vraiment à prendre des actions concrètes pour régler ça en 98. Et on a même dû, encore aux États-Unis, on règle souvent comme ça avec des lois, des décrets, etc. Donc, c'est la loi sur la divulgation de l'information et de l'état de préparation pour l'an 2000 qui a été justement publiée en 1998. Puis cette loi-là était conçue pour encourager les entreprises américaines à partager leurs données à propos justement de ce qui allait se passer au tournant de l'an 2000. Puis en leur offrant de protection à responsabilité limitée pour le partage d'informations sur les produits et les méthodes. C'est-à-dire pour qu'on fasse une mise en commun aux États-Unis de ces savoirs-là quant au passage là, vers les quatre chiffres, si on veut, dans la date de tout ce qu'on consignait de façon informatique. Il a fallu une loi pour qu'on arrive à ça.
Oui, parce que là, évidemment, l'an 2000 était à nos portes, donc il fallait agir. Alors, 15 juillet 1998, Bill Clinton, président des États-Unis, prend la parole. Et là, il somme les gouvernements et les entreprises à se préparer, justement, en vue de l'an 2000. On l'écoute.
The solution unfortunately, is massive, painstaking, and labor-intensive.
Malheureusement, la solution est laborieuse et exigera énormément de travail et de minutie. Il faudra beaucoup de temps pour installer de nouveaux systèmes ou pour mettre en place un plan B qui soit fiable, afin que les entreprises essentielles et les services gouvernementaux puissent continuer de fonctionner. Avec les millions d'heures nécessaires pour réécrire des milliards de lignes de code et des centaines de milliers d'organisations interdépendantes, il s'agit clairement de l'un des défis les plus complexes de l'histoire.
This is clearly one of the most complex management challenges in history.
Donc, on l'entend, hein, le ton est grave, c'est sérieux. Quel effet a eu ce discours en 1998 du président?
Bien, en fait, c'est que plusieurs pays, hein, après cet appel-là, finalement, dont le Canada, ont mis sur pied leur propre centre de commandement. Donc, ils ont développé des groupes de travail, des lignes d'information publique pour faire face, justement, à l'arrivée de l'an 2000. Même les Nations unies, Maxime, s'en sont mêlées, hein, puis ont aidé à distribuer des fonds aux pays en développement pour qu'on puisse se préparer adéquatement, justement, là, à cet effort mondial-là de coordination, pour que soit évité, justement, là, ce fameux bug-là. Et effectivement, aux États-Unis, donc on a vu sortir à ce moment-là, dès 96, hein, jusqu'en 99, de nombreux sites web qui faisaient état de tous les possibles problèmes qu'il y aurait. Et ça a vraiment été un phénomène à ce moment-là de société. Tout le monde était en ligne. Ben, pas tout le monde. On commençait à être beaucoup en ligne.
Oui, ben quand même,
et
oui.
Les gens qui allaient lire, hein, sur ce phénomène-là voyaient toutes les possibilités, hein, parce que là, évidemment, on faisait, comme on le fait en gestion de risque, on va énumérer tout ce qui pourrait possiblement arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver,
oui,
ça a quand même créé, je vous dirais, un petit effet boule de neige, là, parce que tout le monde s'inquiétait un peu plus qu'on aurait pu l'imaginer.
Oui, avec, j'allais dire, un mot-clé. On ne disait pas ça à l'époque, ce n'est pas un mot-clé. mais il y avait ce fameux mot, hein, Y2K.
Y2K,
Y2K,
oui.
Pour illustrer, donc, Year 2000. Alors, il faut mettre les bouchées doubles, et là, on le comprend. Et ça passe notamment par la mise à niveau des parcs informatiques. Et ça, il y a beaucoup de monde. Là. Il faut s'équiper, il faut agir, puis il faut le faire assez vite, là.
Oui, tout à fait. Puis ce qu'on avait vu, en fait, effectivement, c'était, bon, d'abord, il y avait quand même des réels problèmes, par exemple, dans les banques, hein, qui calculent les taux d'intérêt quotidiennement. Évidemment, s'il manque deux chiffres à l'équation, puis qu'on reste finalement à 0,1, par exemple, en arrivant en 2001, ça peut poser un problème, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est sur 100 ans, qu'on est en 1901, oui. Etc. Et il y a des centres technologiques, des centrales électriques, etc., qui fonctionnent aussi avec la date, donc ils doivent pouvoir le faire. Penser au transport et tout ça, effectivement, Maxime. Donc, il fallait vraiment s'équiper là-dessus. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il fallait aussi, effectivement, mettre à jour ces systèmes-là. Il fallait s'assurer que partout les logiciels, hein, aujourd'hui, on parle de patch, etc., bien, il fallait s'assurer que partout, on allait, justement, réussir ça. Puis les logiciels populaires, hein, justement, continuaient à stocker les dates comme du texte et c'était un problème. Fait que là, il fallait justement arriver, hein, à mettre tout ça à jour, à stocker l'information en base de données. Fait que c'était vraiment un gros plan qu'on devait déployer pour faire ce changement-là partout. Mais ça s'est fait parce qu'effectivement, ce qu'on a vu, hein, c'est que les fameux là, conférenciers sur le fameux Y2K, comme on l'appelait tout à l'heure, ont servi un peu de courroie d'information. Ça, c'était vraiment aux États-Unis. Et là, on a vu arriver toute une série de consultants, hein, de grandes boîtes de consultance en informatique qui se sont offerts pour aller régler ce problème-là partout. Mais ce n'était pas vraiment un bug auquel on faisait face, Maxime. C'était une obsolescence des systèmes.
Oui.
On avait laissé filer, hein, des fois, des logiciels que l'on réparait finalement sur des fois beaucoup plus que 10 ans, ce qui était leur durée de vie là, qu'on avait anticipée. Et à ce moment-là, ben, effectivement, il fallait remplacer ces systèmes-là.
Oui, et ça, c'est vraiment un travail colossal. Puis on entendait Bill Clinton le dire, hein, ça va nécessiter des heures et des heures. Les entreprises, les gouvernements investissent. On imagine que ça a été assez lucratif pour les grandes firmes informatiques, non?
Ben oui, on parle. Les consultants qui, à ce moment-là, faisaient l'évaluation, ont présumé qu'il y avait eu plus de 100 milliards qui avaient été investis seulement aux États-Unis. Et pensons juste, Maxime, du côté de la défense, justement, nationale aux États-Unis, il a fallu faire appel à des consultants externes aussi pour s'assurer que les systèmes seraient mis à jour. Ce sont donc des firmes d'informatique qui sont arrivées sur place et qui ont aidé, justement, les gens à se remettre, à mettre en place ce grand plan-là. Et c'était vraiment particulier parce que on pouvait vraiment voir à ce moment-là la dépendance qu'on avait déjà aux firmes informatiques.
Ah ben oui,
et quand on dit ça, et en Europe, il y avait le même phénomène, mais on faisait aussi le passage à l'euro. Fait qu'il y avait déjà des coûts qui étaient engagés pour transformer les systèmes informatiques pour qu'ils répondent justement à l'entrée en monnaie euro. Et ça, pour eux, donc, ça a été plus absorbé dans ça. Mais ce qu'on voit quand même quand on parle déjà à cette époque-là, on dit, les prophètes de malheur parlaient de 300 à 600 milliards et il semble que ce soit plus que 100 milliards seulement aux États-Unis.
Seulement aux États-Unis. Donc des sommes. Oui, des sommes énormes.
Oui, c'est des sommes, effectivement. Comme je disais, avec l'euro, les coûts en France puis en Europe ont été jumelés, finalement, à ce changement-là de système. Mais quand même, on s'aperçoit qu'il y avait encore des problèmes à régler dans l'année 2000, même après avoir mis à niveau tous les systèmes à ce moment-là.
Mais c'était quoi les risques? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Parce qu'on a entendu plein de choses.
Oui, on a entendu plein de choses, mais quand même, comme je le disais, il faut penser justement à tout ce qui touchait d'abord les centrales nucléaires. On avait très peur, parce qu'entre autres,
avec
au Japon, effectivement. Mais finalement, comme on a pris un petit peu d'avance, il n'y a pas eu tellement de problèmes. On avait aussi du côté bancaire, on prévoyait rien de moins, Maxime, qu'une récession mondiale à cause des systèmes, justement, qui n'allaient plus répondre. Ça ne s'est pas concrétisé, effectivement. Fait que là, les consultants en fait, oups, peut-être que c'était le fun qu'on ait fait une erreur là-dessus parce que c'était vraiment pas souhaitable. Et c'est ce qu'on a vu avec tout le reste de ces peurs-là qu'on avait. Les dates, finalement, dans les systèmes, c'était quelque chose qui était à prévoir. Puis l'économie, on disait, va vraiment se contracter en raison des systèmes informatiques. Et là, on a vu que finalement, on pouvait agir en amont et que rien de tout ça ne s'est fait.
Oui.
Évidemment, par exemple, on sait que justement tout ce qui touchait le transport allait être affecté par ça. Même les secteurs clés du pays, par exemple l'électricité, les téléphones, l'aviation, un peu partout. Le Japon en a parlé, les États-Unis aussi. Tout le monde avait peur que tout ça soit affecté. Mais parce qu'on se disait, si les ordinateurs ne sont pas capables de lire l'an 2000, qu'est-ce qui arrivera?
Mais parce qu'on était dépendant de l'informatique, bien sûr,
on avait commencé à informatiser toute la société depuis les années 80. Tous les différents aspects de nos opérations étaient informatisés.
Oui, et là, les exemples, ils étaient nombreux. On va écouter France 2, encore une fois, envoyé spécial, 1998. Et là, on lésine pas sur les moyens. Hein. Reconstitution, dramatisation, mise en scène de la soirée du nouveau millénaire, telle qu'on l'imaginait 2 ans auparavant. On écoute.
Nous sommes le 31 décembre 1999, le grand soir. 2 millions de Parisiens sont dans les rues pour célébrer l'arrivée du 21e siècle.
Ça doit être le meilleur année du siècle.
En raison du décalage horaire, à l'autre bout du monde, en Asie et en Australie, c'est déjà l'an 2000. Subitement, sur France 2, les programmes de fête sont interrompus par un flash spécial d'information.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ce flash spécial alors qu'une série d'incidents dramatiques se produisent dans le sud-est asiatique et en Australie. Des incidents pour l'instant inexpliqués avec d'abord ces scènes d'émeutes qui se déroulent en ce moment même devant les établissements bancaires. Des clients prennent leur banque d'assaut. L'argent n'est plus distribué, les cartes de crédit ne fonctionnent plus quand ce ne sont pas les comptes eux-mêmes qui semblent s'être effacés. Plus dramatique à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le feu a pris presque simultanément dans plusieurs immeubles de la ville. Pour l'instant, les autorités néo-zélandaises n'ont fourni aucun bilan. Mais cette série d'incendies est très spectaculaire. Il semblerait qu'à chaque fois, les capteurs anti-feu et les alarmes des immeubles n'aient pas fonctionné.
Scénario catastrophe, ça se poursuit. Il y a un avion qui s'écrase en Australie sans raison, 320 morts. Bon, ça fait sourire aujourd'hui, avec le recul, bien sûr, c'est facile à dire, mais cette fameuse soirée du 31 décembre 1999, qu'est-ce qui s'est passé finalement?
Ben, il s'est pas passé. En fait, il y a eu sûrement beaucoup de fêtes à peu près dans tous les pays.
Hein. Ça, c'est, oui, c'est sûr.
Ça, oui, effectivement. Oui. On se rappellera de nos belles lunettes 2000 que tout le monde arborait fièrement. Mais en fait, le 29 décembre 1999, il y a eu juste avant, donc avant la fameuse soirée du 31, une panne de machine de carte de crédit au Royaume-Uni. Et là, on s'est imaginé que ça allait vraiment être le signe que tout allait mal aller. L'eau embouteillée était difficile à trouver. Imaginez-vous encore, Maxime, le papier toilette était dans les denrées qu'on cherchait, l'essence, des fournitures de camping. Mais en réalité, ce qui s'est passé, ce sont des petites choses, finalement, des petits secteurs où on avait peut-être oublié de faire des mises à jour. Par exemple, en Australie, hein, plutôt que des avions qui s'écrasent et tout ça, on a eu un petit problème de machine de validation des billets d'autobus dans deux états qui ne fonctionnaient pas bien. Au Japon, à Ishikawa, l'équipe de surveillance des radiations est défectueux, l'équipement. Donc, il paraît qu'on a réussi à le réparer à peu près en 2 heures. Et ensuite, il y a une centrale nucléaire où l'alerte a été sonnée pour rien en raison justement de ces problèmes-là. Fait qu'on voit que c'était pas vraiment... Et il y a eu quelques petites anecdotes, même je vous dirais fort amusantes. Par exemple, au Danemark, le premier bébé né juste après le coup de minuit, ce soir-là, a été déclaré comme ayant 100 ans à cause justement du problème dans le système. Et là, il paraît que ça a été des petites choses comme ça qu'on a vues.
Ouais, c'est anecdotique,
Oui, c'est anecdotique et ces anecdotes-là, on les a collectées vraiment puis on a voulu les revoir parce que comparativement avec le reportage qu'on a pu entendre, on s'est aperçu que finalement, il ne s'était pas passé rien. Il n'y a même pas eu d'interruption de diffusion télé ou radio. On a suivi tout ce qui se passait à Noël, au jour de l'an, comme si c'était une année régulière, sauf qu'on passait à un nouveau millénaire. Et ça, c'était, je pense, la chose qui vraiment... On va se rappeler, c'est qu'au-delà de ce fameux bug-là, on s'aperçoit justement que c'était la peur millénariste encore qui nous tenait.
Oui, il y avait une espèce de mélange de tout ça. Hein? La grande question à plusieurs milliards, parce que quand on regarde les sommes investies, hein, s'il n'y a pas eu de catastrophe, est-ce que c'est parce qu'on était bien préparé ou au contraire, on a exagéré les risques?
Écoutez, je pense que quand on travaille en dernière heure comme ça, c'est clair qu'on va avoir des problèmes. Et là, effectivement, les coûts vont augmenter. Mais dans ce cas-ci, c'était prévisible. On le savait depuis le milieu des années 80 qu'il fallait mettre à jour ces systèmes-là. Puis à mesure que la puissance de calcul des ordinateurs puis augmentait, puis qu'on pouvait stocker plus facilement sur des serveurs l'information et que ça coûtait moins cher l'octet justement de les garder, ce problème-là pouvait être réglé. Mais on a attendu. Puis là, on voit aussi, c'est qu'on a un système, par exemple, gouvernemental qui souvent est déconnecté des gens qui règlent leurs problèmes informatiques, qui sont des consultants. Je ne veux pas avoir de l'air moi-même catastrophiste, mais on se rend compte que c'est encore un peu comme ça aujourd'hui partout. Hein? Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir cette peur-là du bug pour se rendre compte que souvent, on voit le problème au moment où il apparaît,
plutôt que d'agir en amont.
Une série de petites catastrophes.
Oui. Ben, c'est peut-être la grande leçon à retenir, en tout cas, de ce fameux bug de l'an 2000. Mais on le constate, c'était pas du tout anecdotique. Il y avait aussi la menace terroriste. Il y avait plein de choses et tout ça lié au changement de millénaire. Nadia Serra-Yoko, doctorante en communication, chargée de cours à l'UQAM. Ben, merci de l'avoir revécu avec nous, ce bug de l'an 2000.
Oui, revécu avec vous, tout à fait.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Au plaisir. Ici Maxime Coutier. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. À une prochaine. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.